Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois.
Pas question de baisser la garde pour Jean Castex. Restaurants, bars, lieux culturels et sportifs ne rouvriront pas avant plusieurs semaines. Le Premier ministre invoque une situation sanitaire plus fragile. Il envisage même d'augmenter dès ce week-end le nombre de départements sous couvre-feu à 18h. Probable tour de vis qui pourrait en précéder d'autres. Concernant la vaccination, ça y est, les seringues s'activent enfin. 45 000 personnes vaccinées ces 5 derniers jours. Pour les plus de 75 ans, ce sera à partir du 18 janvier. Nous entendrons également l'inquiétude d'Olivier Véran après la découverte en France de 2 clusters du variant anglais du Covid. Réaction et explication sur cette conférence de presse dès le début de ce journal. À la une également ce soir, l'Amérique toujours groggy au lendemain du coup de force des Trumpistes sur le Capitole. L'un des jours les plus sombres de l'histoire des États-Unis pour Joe Biden. Nous irons à Washington et on s'interrogera sur le profil de ces émeutiers qui ont pris d'assaut le cœur de la démocratie américaine. Dans ce journal également, un procès pour Karim Benzema dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et puis le Vendée Globe avec un leader qui file à vitesse grand V. Le temps de demain, toujours gris le matin avec de nombreux nuages givrants, prudence donc. En revanche, le ciel sera plus lumineux l'après-midi, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,70% à 5 669 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes s'intéressera au compte Nickel. Cette solution de paiement que l'on trouve en France chez les buralistes, eh bien Nickel s'internationalise. Sa déléguée générale et l'invité ce soir est d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On s'en doutait, Jean Castex l'a donc confirmé ce soir. Nous sommes encore loin de voir la lumière au bout du tunnel Covid.
La situation sanitaire de notre pays n'est pas revenue à la normale. Elle est même devenue plus fragile au cours des dernières semaines. Même si le virus circule légèrement moins en France que chez la plupart de nos voisins, le niveau des contaminations dans notre pays reste élevé. Il a même tendance à progresser depuis la mi-décembre. Nous sommes aujourd'hui un peu au-dessus des 15 000 cas quotidiens, soit 3 fois plus que l'objectif, vous vous en souvenez, de 5 000 cas par jour que nous nous étions fixés. Il n'est donc pas question que nous baissions la garde dans les semaines à venir. Nous devons non seulement maintenir les mesures en vigueur visant à freiner la circulation du virus, mais être prêt, je le dis, à les renforcer dès l'instant où cela s'avérerait nécessaire en fonction de l'évolution des prochains jours et des prochaines semaines.
Pas question de baisser la garde, a dit le Premier ministre. Anne Le Gall, vous avez suivi attentivement cette conférence de presse. Quelles sont les décisions qui ont été annoncées ce soir ?
Eh bien, le statu quo, les restaurants resteront fermés à minima jusqu'à mi-février. Pour la culture, aucune évolution pour l'instant. Un point sera fait le 20 janvier prochain pour voir s'il est possible d'envisager une ouverture à partir de début février. Même chose pour le secteur sportif, pour les stations de ski. Pas de remontée mécanique tout de suite. C'est prématuré de prendre des décisions. Le couvre-feu est aussi maintenu jusqu'au 20 janvier. Un nouveau point sera fait d'ici demain soir pour voir s'il faut rallonger la liste des départements soumis à un couvre-feu dès 18h. Et selon l'impact du variant et celui des fêtes de fin d'année, eh bien, des mesures supplémentaires pourraient être prises si besoin au niveau national.
Anne, vous restez avec nous, on a encore des points à aborder, mais avant, écoutons la réaction d'un restaurateur parisien, Romain Vidal, qui regrette ce soir de ne pas avoir un calendrier plus clair.
Repousser mi-février au plus tôt, c'est une date encore hypothétique. On ne connaît pas vraiment les enjeux pour pouvoir réouvrir à cette date-là. Et donc, pour l'instant, c'est un cap, mais ce n'est pas un cap fixe. Il nous faut une date réelle avec des certitudes d'ouverture. Ce qui serait bien, c'est de faire le point et pas, par exemple, mi-février, se retrouver avec « vous pouvez ouvrir demain matin ». Ça serait très, très compliqué, ça ne serait pas faisable pour nous. Nos entreprises, elles ont besoin de redémarrer, ça prend du temps. Il faut qu'on s'organise pour y arriver.
Un restaurateur parisien joint par Olivier Samin. Anne Le Gall, vous êtes toujours avec nous. Il y a un autre point majeur qui a été abordé ce soir et qui cristallise beaucoup de critiques, c'est la stratégie vaccinale. Va-t-on enfin accélérer le tempo, Anne ?
Alors, c'est déjà un peu le cas puisqu'on en est à 45 000 Français vaccinés jusqu'ici, 25 000 rien qu'aujourd'hui. L'idée, c'est de protéger le plus vite possible les personnes âgées et les Français qui souffrent de pathologies chroniques. La nouveauté, c'est qu'à partir du 18 janvier, les injections seront élargies aux plus de 75 ans qui vivent à leur domicile. Ceux qui le souhaitent pourront donc prendre rendez-vous par téléphone ou sur Internet pour être vaccinés. Les approvisionnements en vaccins sont suffisants pour vacciner 1 million de Français d'ici fin janvier, a assuré Jean Castex. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a répété par ailleurs que le vaccin est sûr. Il y a très peu de réactions graves, un cas pour 100 000 environ, et cela arrive en général chez des personnes très allergiques.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Et puis toujours concernant la vaccination, cette information importante, le rappel du vaccin Pfizer pourra être différé sans risque jusqu'à 6 semaines au lieu de 3, a annoncé Olivier Véran. Cela nous permet de disposer de davantage de doses disponibles tout de suite, s'est réjoui le ministre de la Santé. Inquiet, en revanche, au sujet du variant anglais du Covid. Et pour cause, deux clusters à risque ont été détectés en France, comme l'a confirmé Olivier Véran.
Nous voulons éviter à tout prix la diffusion de ce variant en France. À ce jour, nous avons identifié 19 cas en circulation sur le territoire national, dont deux dans le cadre de clusters dits à risque, un en Île-de-France et un en Bretagne. Nous attendons clairement à en identifier davantage. Tous les laboratoires sont mobilisés pour traquer le variant partout. Ce jeudi et demain, tous les tests PCR douteux, c'est-à-dire pouvant suggérer qu'il s'agit d'un cas de variant anglais, seront analysés sur nos plateformes permettant de dénombrer le nombre précis de cas de variants à date sur le territoire national pour la journée donc d'aujourd'hui et de demain.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a par ailleurs annoncé qu'à partir de dimanche, toute personne ressentant des symptômes ou qui est cas contact pourra s'inscrire sur le site de l'assurance maladie et ce, pour obtenir immédiatement un arrêt de travail indemnisé et ce, sans jour de carence.
Europe 1. Le 22-22-30.
Il y a tout juste 24 heures, la démocratie américaine a vacillé. Son cœur névralgique, le Capitole, était violemment envahi de soutien de Donald Trump alors que le Congrès s'apprêtait à valider les résultats de la présidentielle. Et ces images de chaos ont fait le tour du monde et suscité de nombreuses réactions, dont celle ce soir du président élu Joe Biden.
Hier était l'un des jours les plus sombres dans l'histoire de notre nation. Un assaut sans précédent contre notre démocratie. Un assaut littéralement contre la citadelle de la liberté, le Parlement des États-Unis lui-même. Ce que nous avons vu hier, ce n'était pas du désordre, ce n'était pas une manifestation, c'était le chaos. Ce n'étaient pas des manifestants, ne les appelez jamais des manifestants. C'était des insurgés, des terroristes domestiques. Personne ne pourra me dire le contraire. Si cela avait été des manifestants de Black Lives Matter, ils auraient été traités très, très différemment. On sait tous que c'est vrai. Et c'est inacceptable. Totalement inacceptable.
La colère de Joe Biden. Et on retrouve tout de suite notre correspondant aux États-Unis, Alexis Guilleux. Vous êtes à Washington, capitale, encore sous le choc après ce coup de force trumpiste.
Oui, la sidération domine ici à Washington à l'image d'Alice, venue ce matin se recueillir devant le Capitole.
J'étais choquée. La principale pensée qui n'arrête pas de me revenir à l'esprit, c'est que si les meneurs de cette insurrection étaient noirs, armés ou non, il y aurait beaucoup d'arrestations et plus de morts.
Un sentiment partagé par Bobby, sorti faire une balade avec son fils. La journée d'hier est pour lui le symbole des fractures qui divisent l'Amérique.
C'est une honte. Il y a tellement de fausses informations qui circulent sur le prétendu vol des élections. On doit mener une réflexion dans ce pays, nous éduquer sur ce que la vérité veut dire.
Alors il y a bien entendu ce sentiment de honte, mais les personnes interrogées évoquent également l'espoir après la validation par le Congrès de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.
Alors dans la foulée de ces incidents, Donald Trump a quand même fini par concéder sa défaite, même s'il dit toujours que le scrutin a été truqué. Il promet qu'il y aura une transition ordonnée avec son successeur Joe Biden qui sera investi le 20 janvier. D'ici là, Alexis Guilleux, qu'est-ce qu'il peut se passer ?
Oui, il reste 13 jours de pouvoir pour Donald Trump, mais va-t-il rester jusqu'au bout de son mandat ? Les démocrates lèvent la voix, en tout cas pour demander son départ. Cet après-midi, Nancy Pelosi, la chef démocrate à la Chambre des représentants, affirme que démettre Donald Trump est une urgence de la plus haute importance. Elle exhorte le vice-président à déclencher le 25e amendement et ce matin, c'est le leader démocrate au Sénat qui demandait une mise à l'écart du président. Dans son communiqué ce matin, Donald Trump, lui, parlait d'une transition ordonnée le 20 janvier, même s'il expliquait qu'il n'est pas d'accord avec les résultats de la présidentielle. Reste donc désormais à savoir s'il sera présent à l'investiture de Joe Biden, comme c'est la tradition. En tout cas, les violences d'hier ont été unanimement condamnées. Un moment de honte et de grand déshonneur pour notre nation, selon Barack Obama. George W. Bush a lui dénoncé des scènes dignes de république bananière.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à Washington, capitale américaine. On vient de l'entendre, toujours sous le choc de cet assaut des partisans de Trump. Ces émeutes ont fait au moins un mort, une ancienne militaire tuée par la police alors qu'elle tentait d'entrer dans le bâtiment. Xavier Yvon, qui sont ces hommes et ces femmes qui ont agi pour la plupart à visage découvert et qui ont réussi à pénétrer dans le temple de la démocratie américaine avec une facilité déconcertante?
En fait, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans n'importe quel meeting de Donald Trump. Je les ai vus, ces gens-là, des dizaines de fois. C'est le peuple à casquette rouge. Alors, quasiment exclusivement des blancs, de classe moyenne, qui croient tout ce que leur racontent leurs héros, qui vous sortent les mêmes théories conspirationnistes sur, par exemple, le réseau mondial de pédophilie géré par Hollywood. Ça, on l'entend très souvent dans les meetings de Trump. Alors, en première ligne des émeutiers, on a aperçu des militants de groupes d'extrême droite, comme les Proud Boys, équipés de gilets tactiques et de treillis, des supporters aussi de la cause complotiste QAnon. L'un d'eux, déjà bien connu, Jake Angeli. C'est l'homme torse nu, portant une coiffe à cornes et peau de bison qu'on voit se faire prendre en photo sur l'estrade du Sénat. La femme qui a été tuée par balle, Ashley Babbitt, est une ancienne militaire, militante pro-Trump pure et dure. La veille, elle avait posté sur Internet un message menaçant. Rien ne nous arrêtera, la tempête arrive sur Washington. Dans cette foule, il y avait des commerçants, des fonctionnaires, un élu du Parlement local de Virginie-Occidentale, des grands-mères même, tous surpris d'avoir réussi à entrer dans le Capitole et qui, on l'a vu sur les images, une fois à l'intérieur, ne savait plus trop quoi faire, se comportant presque en touriste, en prenant des selfies, et tous croyant dur comme fer que l'élection a été volée à Donald Trump et que leur action pouvait, comme par magie, inverser le résultat.
Merci Xavier Yvon, ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. J'ajoute que Donald Trump est ce soir toujours privé de ses jouets préférés, les réseaux sociaux. Twitter et YouTube ont suspendu momentanément ses comptes. Quant à Facebook, Trump y est banni pour une durée indéterminée en raison de la virulence de ses messages. Toujours aux États-Unis, Elon Musk est devenu ce soir l'homme le plus riche du monde. Le patron de Tesla, dont les actions flambent en bourse, est passé devant Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. La fortune d'Elon Musk est estimé à plus de 188 milliards de dollars. Comme prévu, le rachat de Tiffany par le géant du luxe français LVMH a été finalisé et le patron du joaillier américain va être remplacé. Le 30 décembre dernier, les actionnaires de Tiffany avaient approuvé l'union avec LVMH pour un montant de presque 13 milliards d'euros. Opération record dans l'industrie du luxe. La Belgique, nouvelle victime de la grippe aviaire. Deux élevages de volailles situés près de la frontière française ont été touchés et on apprend à l'instant que le nombre de foyers en France a doublé. On en compte ce soir 124, principalement dans les Landes, où les professionnels du foie gras évoquent une situation hors de contrôle. 350 000 canards ont d'ores et déjà été abattus. 250 000 supplémentaires sont en passe de l'être. Dans l'actualité également ce soir, Karim Benzema, l'attaquant français, est renvoyé en correctionnel dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, affaire qui avait éclaté en 2015. Chloé Triomphe, rappelez-nous, qu'est-il reproché exactement à Karim Benzema ?
Eh bien, en fait, la justice ne reproche pas à proprement parler à Karim Benzema d'avoir fait chanter lui-même son coéquipier Mathieu Valbuena, mais plus exactement d'avoir joué les intermédiaires. Concrètement, il ressort de l'enquête que Karim Benzema a fait la démarche d'aller trouver Mathieu Valbuena un soir à Clairefontaine pour le convaincre de se mettre en relation avec un homme qui pourrait lui arranger cette affaire gênante en mettant en avant la même mésaventure vécue par un autre joueur qui avait accepté de payer et dont la vidéo n'était jamais sortie dans la presse. Ce soir-là, Mathieu Valbuena ne semble pas convaincu. Il explique que de toute façon, il a déjà tout dit à sa femme. Mais ce qui s'avère le plus embarrassant pour Karim Benzema, c'est le coup de téléphone qu'il passe dans la foulée à ce fameux individu qui n'est autre que l'un de ses amis d'enfance. Dans les écoutes téléphoniques, Karim Benzema explique à ce dernier la réaction de son coéquipier. « Il ne nous prend pas au sérieux, il ne va rien lâcher. » Sous-entendu, il ne va pas payer. Depuis, Karim Benzema s'est expliqué. Il a toujours dit qu'il voulait simplement aider son copain Valbuena, mais qu'il ne savait rien du chantage. Et sur les réseaux sociaux ce soir, il ironise à propos du procès à venir avec cette formule « Bon alors, c'est pour quand la mascarade ?»
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Quatre personnes ont été interpellées hier et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la fête sauvage organisée pour le Nouvel An à Lyon. Une rêve partie qui avait réuni jusqu'à 2400 personnes au sud de Rennes au mépris total des règles sanitaires et du couvre-feu. Allez, concluons ce journal avec une bonne bouffée d'air frais. On en a tous besoin. L'air de l'Atlantique Sud qui visiblement donne des ailes. Et Yannick Bestaven, le leader du Vendée Globe, file en tout cas à toute allure et creuse l'écart avec ses poursuivants, Corinne Boulot.
Oui, Yannick Bestaven a pris le pouvoir il y a 21 jours. Et après avoir contenu les assauts de Charlie Dalin jusqu'au Cap Horn, qu'il a été le premier à doubler samedi dernier, eh bien il est ce soir un solide leader à bord de son Imoca Maître Coq. Il a très bien négocié le premier piège anticyclonique de l'Atlantique Sud, alors que ses adversaires ont été ralentis, voire scotchés dans le petit temps, au large des côtes argentines. De quoi avoir l'humeur chantante comme il y a 2 jours, écoutez.
Au revoir les albatros!
Voilà, Yannick Bestaven, impressionnant et très inspiré par Johnny en pleine remontée de l'Atlantique. En même temps, il y a de quoi être joyeux, hein, puisqu'au dernier pointage ce soir, le leader au large de l'Uruguay possède 439 nautiques d'avance, soit environ 800 km sur son premier poursuivant, Thomas Ruyant, lui-même talonné par Charlie Dalin. Le plus gros écart depuis le début de la course entre le premier et son dauphin. Pour autant, attention, hein, dans le week-end, une nouvelle bulle sans vent va sans doute provoquer un nouveau regroupement. Ce Vendée Globe, c'est décidément entretenir le suspense et ce sera le cas jusqu'à l'arrivée dans environ 3 semaines au Sable d'Olonne.
Suspense pour notre plus grand bonheur. Merci Corinne Boulou. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le temps de demain sera plus lumineux.
Oui Julien, avec attention tout de même, en début de journée encore pas mal de nuages bas et de brouillard et cela concerne quasiment tout le pays, sauf le pourtour méditerranéen. Ailleurs, la visibilité sera réduite si vous devez prendre la route tôt demain matin. Dans le nord-est et dans le nord-ouest, notamment sur les côtes de la Manche, le temps est encore humide demain avec des averses de pluie et de neige mêlées en plaine. Attention, les gelées seront encore nombreuses demain matin et ces pluies qui tombent dans la matinée, notamment sur le nord-est et le nord-ouest, eh bien vont prendre une forme de verglas. Elles seront verglaçantes, ces pluies. Prudence là aussi sur la route. Dans l'après-midi, le soleil va se montrer sur les 3/4 du pays, un soleil souvent voilé, mais du coup, nous avons une impression bien plus lumineuse et plus agréable. Seules les Ardennes, l'Alsace et les côtes de la Manche restent sous la grisaille demain après-midi et les températures sont encore plus fraîches demain matin avec moins 9 à Aurillac, moins 8 à Rodez, moins 5 à Brive-la-Gaillarde, moins 4 pour Rennes, moins 3 à Nantes, moins 2 pour Clermont-Ferrand, moins 1 à Paris, 0 à Lille et 5 pour Ajaccio. Et puis au meilleur de la journée, exactement les mêmes températures qu'aujourd'hui, avec moins 1 à 12 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître ce soir de boursier.com, suivi de l'interview écho qui s'intéressera au compte Nickel. Vous savez, c'est cette solution de paiement que l'on trouve en France, notamment chez les buralistes. Eh bien, cette solution de paiement, Nickel, s'internationalise. Sa directrice déléguée est l'invitée ce soir d'Emmanuel Duteil. A tout de suite.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1 et c'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Rien n'arrête Wall Street, les grands indices américains battent encore de nouveaux records ce soir.
Oui, record pour le Dow Jones en hausse de 0,7%, 31 041 points. Record aussi pour le Nasdaq, plus 2,56%, 13 067 points. L'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis a été validée. Ça fait encore grimper les marchés, des marchés qui mettent complètement de côté les violences d'hier à Washington. Les taux d'intérêt montent encore dans l'espoir d'un plan de relance. Les valeurs bancaires en profitent comme hier. Bank of America, plus 2,4%. JP Morgan plus 3,3%. La folie se poursuit, vous en parlez dans le journal pour Tesla. Encore un gain de 8% pour le titre du fabricant de voitures. Et avec cette envolée, son patron Elon Musk se paye le luxe de devenir la première fortune mondiale. 188,5 milliards de dollars. Il double donc le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Et puis côté devise, l'euro est revenu sous la barre de 1,23$, mais il reste proche de ses plus hauts depuis près de 3 ans.
Retour en France, à Paris, où le CAC 40 poursuit sur sa lancée. Et la vedette du jour, c'est Saint-Gobain.
Oui, ça monte. Le CAC 40 gagne 0,70%, 5669 points. Le CAC qui profite de l'optimisme de Wall Street. Une très belle journée donc pour Saint-Gobain en hausse de 6%. Son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait nettement dépasser les attentes et atteindre environ 10 milliards d'euros. Et puis du vert aussi pour l'automobile. Renault grimpe de 4,2%. Ou pour les banques, après une très belle séance hier déjà, BNP Paribas gagne encore 2,2%.
Et le plongeon du jour est signé par Atos.
Ouais, le groupe de services numériques a approché son concurrent américain DXC Technologies. Et en vue d'une transaction amicale, l'agence de presse Reuters parle d'une offre à plus de 10 milliards d'euros pour renforcer sa présence aux États-Unis. Opération qui ne semble pas du tout séduire les marchés puisque le titre Atos chute de 13% ce soir. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé dans le vert. Londres gagne 0,2%, Francfort plus 0,5%, gain de 0,4% pour Madrid. Milan est stable et le CAC 40 gagne encore 0,7% à 5 669 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à demain Claire. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview Éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Marie de Grand-Guillot.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale du compte Nickel. Le compte Nickel, c'est ce fameux compte bancaire que l'on peut trouver directement chez une bonne partie des buralistes. Un compte très simple où tout est logiquement bien expliqué et où les dépenses sont totalement connues. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que ça y est. Vous vous développez, vous venez d'arriver en Espagne, vous l'avez annoncé ce matin, et vous allez vous développer encore un peu plus à l'international, puisque vous avez également annoncé que vous allez arriver là dans les mois à venir en Belgique et au Portugal. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale du compte Nickel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le compte Nickel, c'est une solution de paiement que l'on peut trouver chez les buralistes en France. Et que l'on peut trouver, là ça y est, c'est officiel, enfin en Espagne. Alors maintenant, depuis quelques semaines, mais vous l'avez officialisé ce matin, et vous avez par ailleurs annoncé ce matin que vous alliez vous développer un petit peu partout en Europe, et notamment en Belgique et au Portugal. On va commencer par l'Espagne, parce que c'est ça l'actualité, c'est un très gros marché. Le compte Nickel, quand vous l'avez lancé en France, l'idée c'était de toucher les populations modestes, ceux qui étaient loin des banques. Est-ce que c'est le même concept de démarrage en Espagne ?
Oui, en Espagne, en fait, on s'attend à avoir exactement les mêmes clients qu'en France. C'est-à-dire que un tiers de nos clients en France sont des gens qui ont une relation très conflictuelle avec la banque, qui ont pu être interdits bancaires. Donc là, c'est peut-être les gens que vous mentionnez juste à l'instant. On a aussi un tiers de nos clients qui sont des gens qui veulent diminuer le coût du compte courant. C'est-à-dire qu'un compte courant en France, ça coûte 215 euros en moyenne par an. Et ça, c'est principalement dû au découvert. Et donc, chez Nickel, il n'y a pas de découvert et vous avez toutes vos informations et vos dépenses en temps réel. Et la cotisation annuelle vous coûte 20 euros, donc c'est un moyen de réduire ce coût-là pour un produit qui est essentiel dans votre vie. Et puis, on a un dernier tiers de nos clients qui sont là pour un usage secondaire du compte, qui veulent, par exemple, avoir une carte dédiée pour acheter sur Internet, pour voyager, pour une carte de la maison. Et donc, voilà, on s'attend à avoir exactement la même structure de clientèle en Espagne, c'est-à-dire qu'on a une stratégie très mass market dans le langage économique, mais qui vise à toucher tout le monde. Voilà.
Qui vise à toucher tout le monde. On entend que c'est donc relativement proche de ce qui se passe en France. Malgré tout, vous lancez là, en pleine crise. Certains pourraient se dire, ils sont fous, mais non. Parce que vu votre business, vu ce que vous proposez à vos clients, c'est peut-être même le meilleur moment pour vous.
Oui, le meilleur moment, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la crise actuelle n'a vraiment pas ralenti notre stratégie. On avait annoncé il y a un an maintenant qu'on serait présent dans 7 pays européens en plus de la France d'ici 2024. Et donc, on est ravis de pouvoir dire que ça y est, on est live, on est enfin opérationnel en Espagne. Et puis, on a deux autres pays dont on vient d'annoncer le lancement. C'est très important pour nous parce que la crise actuelle, en fait, elle a révélé des valeurs de consommation qui sont très importantes, comme la proximité, la simplicité, la transparence. Les gens veulent vraiment ça. Et nous, on a vu qu'en France, le contexte actuel a accéléré notre développement. On fait quasiment, sur le dernier trimestre, plus de 30% d'ouverture de compte en plus.
Et vous l'expliquez comment ? Justement parce que c'était la crise, parce que les gens ont voulu un deuxième compte. Comment vous l'expliquez ?
Ben, on l'explique parce que d'abord on l'a voulu, c'était notre stratégie et donc là c'est toujours satisfaisant quand on est une entreprise de voir que ce qu'on fait marche et a des résultats. Donc on a fait plein de choses évidemment cette année pour pouvoir aller chercher des gens qui nous connaissaient pas ou dont le bouche à oreille de nos clients naturels n'arrivait pas que le bouche à oreille n'arrivait pas à atteindre. Notamment on a fait des campagnes publicitaires un peu plus massives que ce qu'on pouvait faire avant. Mais on constate aussi que notre croissance elle est principalement due au fait que les sous-jacents actuelle dans les attentes des consommateurs, elles sont très 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 en adéquation avec ce qu'on propose. Nous, on propose vraiment un compte courant où votre relation à votre argent est vraiment désintermédiée, où on propose le meilleur produit digital possible avec la meilleure expérience et les options qu'aujourd'hui qui sont très difficiles de trouver dans des banques traditionnelles, et en même temps un réseau physique de proximité qui vous permet d'aller déposer de l'espèce, retirer de l'espèce et de pouvoir faire tout ce que vous voulez avec des personnes physique près de chez vous en qui vous avez confiance.
Alors c'est marrant de dire on fait mieux que les autres grandes banques quand on appartient par ailleurs à un très gros réseau bancaire, hein, puisque vous êtes une filiale de BNP Paribas. Vous êtes donc distribué chez les buralistes, mais pas chez tous les buralistes. Hein, je crois un gros tiers aujourd'hui des buralistes. Comment vous allez réussir à grossir? Est-ce que vous voulez grossir également le réseau dans lequel vous êtes disponible en France?
Oui, aujourd'hui, on a 6000 buralistes qui sont distributeurs nickel, enfin d'ailleurs point nickel, puisqu'en Outre-mer, ce ne sont pas des buralistes. Ça fait de nous le troisième réseau de distribution bancaire quand on regarde la densité en nombre d'agences, en fait, des réseaux. Et oui, on veut continuer à grandir. On ouvre à peu près 100 buralistes tous les mois et donc on vise à avoir à peu près 10 000 points de vente d'ici 2024 en France.
Est-ce que vous pourriez aller au-delà des buralistes ou en France, ça ne peut passer que par là? J'y pense, hein, parce que par exemple en Espagne, vous passez par les points de loterie. On pourrait dire par exemple les points de PMU pourraient être aussi utiles en France, ou vous restez uniquement avec les buralistes parce que c'est très pratique et ça fonctionne bien?
En France, on a d'abord une exclusivité avec les buralistes qui fait qu'on n'ira pas voir ailleurs. Mais on est par ailleurs très contents puisqu'ils sont quand même très nombreux. C'est le premier commerce de proximité en France. Il y a à peu près 10 millions de Français qui passent chez les buralistes tous les jours. Il y en a 24 500, donc c'est largement suffisant pour nous. Et c'est vrai que dans les autres pays, notre premier enjeu quand on veut se lancer dans un nouveau pays, c'est de trouver un partenaire ou des partenaires de distribution qui sont aussi pertinents que les buralistes en France. Et donc c'est ce à quoi on s'attelle le plus vite possible.
Qu'est-ce que vous voyez de la situation économique de vos clients? Parce que vous le disiez, un tiers sont très loin du marché bancaire, donc sont souvent des gens en difficulté. Est-ce que cette crise renforce encore leurs difficultés?
Nous, ce qu'on a observé, alors, c'est que ce qu'on peut voir, effectivement, c'est on peut faire des analyses et des moyennes sur l'utilisation des fonds, les ressources moyennes de nos clients. On a observé moins 5% sur les dépenses de nos clients en carte bleue, donc en novembre par rapport à septembre-octobre, là où on n'était pas confiné. Donc on a bien vu que, en fait, alors que au premier confinement, on était plutôt sur des moins 20%. Mmh. Donc les gens ne se sont pas du tout adaptés de la même manière. Et ensuite, dans leur consommation, ce qu'on voit vraiment, c'est par contre une prise en main, et ça je pense que c'est fait pour ça va rester des moyens de paiement digitaux. On a beaucoup plus de clients qui ont recours à leur application, on a beaucoup plus de clients qui font des paiements de sans contact, et donc je pense qu'il y a des outils comme ça du paiement, des innovations digitales dans le paiement qui ont été prises en main pendant cette période là et les gens vont continuer à les utiliser une fois qu'on aura retrouvé une vie plus normale.
Et bien un grand merci en tout cas Marie de Grand-Guillot, la directrice générale du compte Nickel. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci Emmanuel Dutheil. Emmanuel que l'on retrouvera également demain dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Émission spéciale en direct du château de Versailles en compagnie de sa présidente Catherine Pégard. Quelle est la réaction du monde de la culture aux annonces de Jean Castex? Réponse dans La France Bouge demain à partir de 13h. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Very Bad Trip, c'est le titre de Libération qui revient sur l'ahurissante prise du Capitole par des partisans de Trump. Une attaque qui vient conclure dans le chaos une présidence au cours de laquelle Donald Trump n'aura eu de cesse d'abîmer la démocratie dont il était censé être le garant, écrit Libé. Démocratie, le mot est aussi à la une de La Croix. La démocratie en dépit du chaos, titre le quotidien qui rappelle que malgré les violences d'hier soir, le Congrès américain a pu aller au bout de sa mission est confirmer la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Mais cette victoire est fragile, tempère Jean-Christophe Ploquin dans son édito. Le mandat de Trump a beau s'achever le 20 janvier, la défiance envers l'establishment politique qu'il a incarné pendant 4 ans va, elle, rester. Le président sortant a joué durant tout son mandat sur la capacité qu'offrent les technologies d'information et de communication de forger des contre-vérités, de bâtir un univers de réalité virtuelle auquel des sympathisants adhèrent par conviction. Or, ces instruments garderont leur puissance tant qu'ils n'auront pas été régulés, conclut Jean-Christophe Ploquin. Voilà pourquoi le Figaro titre « Joe Biden sur un volcan », le 46e président des États-Unis qui va avoir pour lourde mission de recoller les morceaux d'une nation déchirée par les excès du trumpisme. En tout cas, écrit Philippe Gélis, depuis son élection, le président élu peut être crédité d'un sans-faute surprenant pour ce gaffeur impénitent. Il a adopté une réserve présidentielle, composé un cabinet à bas bruit et peaufiné un programme centriste. Réjouissons-nous, on risque de s'ennuyer avec Joe Biden, conclut l'éditorialiste du Figaro. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien?
Écoutez ma foi, tout va bien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant. Et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et nous on se retrouve dans une petite demi-heure pour le flash. À tout à l'heure Julien.
À tout de suite.